Ma parole, je m'aperçois que je n'ai encore rien déposé dans le bocal. C'est une façon de raconter le monde en creux, hein, en négatif. Imaginez l'avenir en s'intéressant à ce qui va disparaître. Chaque semaine, les invités de Demain la veille doivent déposer dans notre bocal quelque chose qui n'existera plus un jour. Les invités de ce dimanche n'y échapperont pas, bien sûr, à la fin de l'émission. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à ajouter à cet inventaire. À côté du stylo, du volant de voiture, de la montre, du moteur à explosion, je dépose les effets secondaires. Vous savez, cette longue liste d'effets indésirables sur la notice des médicaments. Faisons le pari que ça n'existera plus un jour, car le médicament du futur fera son boulot, et seulement son boulot. On lui demande de nous soigner, pas de provoquer des nausées, des boutons, des maux de tête ou un gros coup de fatigue, pas de s'attaquer aux bonnes bactéries, celles dont nous avons besoin. Plus d'effets secondaires, donc aucun dommage collatéral. Et à n'en pas douter, ça fera bien rigoler nos arrière-petits-enfants quand on leur racontera, tu te rends compte ? De mon temps, les médocs faisaient parfois du mal. Ça rejoint la devise des médecins, tenez. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire.
Demain la veille, l'émission qui raconte le futur, avec Dorothée Barba, sur France Inter.
Les médicaments du futur, donc, avec deux invités en studio ce dimanche. Marie-Yvonne Jans, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de France Biotech, une association qui regroupe des entreprises innovantes dans le domaine de la santé, des biotechnologies. Vous êtes vous-même spécialiste en immunothérapie, on va y revenir bien sûr, vice-présidente de Osez Immunotherapics. Et Xavier Duportet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre société Eligo Biosciences planche, elle, sur l'antibiotique du futur. D'abord un mot sur cette histoire d'effets indésirables. Vous semble-t-il envisageable qu'ils disparaissent un jour complètement ?
Envisageable, oui. Je pense que c'est vers quoi la médecine du futur tend. Si on arrive à avoir une médecine de plus en plus de précision, qui va du coup cibler non plus uniquement les symptômes, mais les causes. Je pense qu'à partir du moment, en effet, où on a ce shift de la médecine vers les causes, ça prendra encore un peu de temps parce que la biologie est très complexe et il y a eu le séquençage du génome il y a une quinzaine d'années. On pensait pouvoir répondre, trouver des solutions à toutes les maladies. Comprendre un peu tout, on s'est rendu compte qu'en fait, on y comprenait encore moins. Et donc, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui arrivent dans la santé, la capacité de calcul beaucoup plus importante qui nous permettent de faire plus de sens des données génomiques récoltées et de toutes les autres technologies qui permettent de comprendre tout ce qui tourne autour, l'environnement, l'impact de notre environnement sur notre santé, on peut comprendre un peu mieux le fonctionnement même des maladies. Et donc, il va y avoir toute une nouvelle vague de thérapies qui vont non seulement être plus ciblées, mais on arrive aussi à des thérapies préventives.
Marie-Yvonne Jans, si on devait résumer, le médicament du passé, c'est l'aspirine, un seul médicament qui soigne tout, et celui du futur sera extrêmement ciblé.
Absolument. En fin de compte, l'immunothérapie est un exemple de médicament ciblé et aussi un exemple de réduction des effets secondaires. Hein. C'est l'objectif, puisque le système immunitaire est l'ensemble d'organes qui permet de maintenir l'équilibre des globules blancs et qui surveille notre système immunitaire. Et c'est à partir de ce système immunitaire et la connaissance du système immunitaire que les scientifiques essaient de développer des nouveaux médicaments extrêmement ciblés, évidemment, et qui auront moins d'effets secondaires, tout simplement parce que ils auront comme fonction de restaurer et de remettre à l'équilibre le système immunitaire.
C'est-à-dire... La solution est déjà dans notre corps, finalement.
Absolument. Il y a trois grands domaines. La transplantation, les maladies auto-immunes et le cancer. Et effectivement, c'est une meilleure connaissance de la transplantation, parce qu'effectivement, en transplantation, on ajoute un organe extérieur au corps humain. Donc là, le système immunitaire est complètement détraqué. Et dans les années 70, on a eu les premiers résultats du maintien des greffons et d'éviter les rejets aigus. Et là, on a commencé à mieux comprendre le système immunitaire, ensuite qui a débordé sur les maladies auto-immunes et maintenant le cancer. Donc on a beaucoup, beaucoup d'espoir dans le domaine du cancer avec ces nouveaux traitements d'immunothérapie.
Et c'est vraiment fascinant de se dire que la solution, encore une fois, elle est déjà dans le corps humain.
Absolument. C'est-à-dire qu'on utilise le corps humain pour se défendre et rééquilibrer notre système et pour rejeter les cancers. Je voudrais rajouter juste que tous les jours, vous créez dans votre corps une petite dizaine de cancers s'installent et votre système immunitaire qui est à surveillant dit « attention, le cancer arrive et je mets tout en œuvre pour le détruire ». Et c'est à partir de là que tout le concept d'immunothérapie est venu.
Alors, puisqu'on parle des médicaments du futur, comment ne pas penser à ce film qui se passe à l'intérieur du corps humain ? Une équipe de soignants miniaturisés à bord d'un sous-marin miniature, le voyage fantastique.
Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse présenter ainsi.
J'avais toujours cru que les globules étaient rouges.
Ils sont rouges à l'œil nu. Et c'est parce qu'ils sont chargés d'oxygène que ceux-ci sont de cette couleur. Le reste du plasma est à peu de choses près comme de l'eau de mer. C'est un océan de vie.
D'un bout à l'autre, il aurait 160 000 km de long.
Le Proteus a dérivé.
Mais ils se sont engagés dans la veine jugulaire.
Impossible. Une artère et une veine ne communiquent pas entre elles.
Elle est anormale, non? Mais il peut y avoir une fistule artéro-veineuse.
Une quoi?
Une sorte de... d'ouverture mettant en communication une veine et une artère. Cela peut survenir après un traumatisme. Commandant, pouvez-vous rebrousser chemin dans l'artère?
Non, on ne peut pas remonter ce courant, c'est matériellement impossible.
Alors tâchons de ne pas dériver trop loin.
C'est facile à dire.
Si nous ne pouvons pas reculer, y a-t-il une autre route?
Eh bien, nous pouvons poursuivre dans ce sens, mais... cela implique que nous allions droit au cœur.
Le voyage fantastique, un film de 1966. Inutile de vous demander quel est le degré de crédibilité de ce film, Xavier Duportet.
On y arrive de plus en plus.
Ouais, c'est les micros, les nanomédicaments.
Ouais, on commence à développer à base d'ADN notamment, ou à base de nano, sur des, enfin, qui sont des nanotechnologies. On développe des médicaments qui sont à l'échelle nanométrique. Alors, ils ne sont pas aussi compliqués qu'un vrai petit robot, évidemment, mais ce sont...
Un vrai petit médecin à l'intérieur du corps.
Ouais. Par exemple, il y a des super médicaments qui sont en train d'être développés dans des cages d'ADN. On met des molécules, des petites molécules thérapeutiques qui sont emprisonnées dans des cages qui sont faites d'ADN. Donc, c'est extrêmement petit. Et en fait, c'est une fois que ces cages d'ADN trouvent la cellule qu'elles ciblent, c'est comme un peu une clé qui s'accroche sur un récepteur de la cellule qui ouvre la cage d'ADN et la petite molécule est libérée sur la membrane de la cellule ciblée.
C'est tout de suite extrêmement clair avec ces métaphores. Marie-Vonne Jans, il y a des parallèles à faire entre ce film de science-fiction et les voies qu'emprunte aujourd'hui la médecine ?
Tout à fait. Par exemple, pour traiter certaines maladies auto-immunes, on développe des anticorps monoclonaux. Bon, c'est un process de développement qui extrêmement lourd et compliqué. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre au point des médicaments qui seront portés par l'ARN du patient. C'est-à-dire qu'on fabriquera notre anticorps au sein de l'ARN. Donc, il fait partie de notre système génétique. C'était absolument impensable il y a quelques années. Donc, c'est une vraie révolution.
Bon, bah, le voyage fantastique, je pensais que vous alliez me dire que c'était absolument pas crédible. Finalement, c'est demain.
C'est demain, oui.
C'est demain, ça commence même à être aujourd'hui.
Oui, absolument.
Allez, le futur sur ordonnance se poursuit dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. Et au passage, un pouce en l'air, vous pouvez liker demain la veille sur le réseau social. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Listen,
trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
Passion Fruit, c'était Drake sur France Inter. Programmation musicale, Thierry Dupin.
Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez? Un cachet par jour et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en 3 jours. Les maths sont devenues utiles et fun. Je savais tout sur tout.
Grazie mille.
Depuis quand tu parles italien?
Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même?
Nos futurs... Le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter.
Et on s'intéresse aux médicaments cette semaine avec Marie-Vonne Jans, patronne de France Biotech, et Xavier Duportet, fondateur de Eligo Bioscience. Alors une simple pilule pour résoudre tous les maux, comme on l'entendait dans l'extrait de ce film, Limitless, c'est pas vraiment le chemin qu'on prend. Au contraire, ça serait plutôt chacun son médicament, si je vous ai bien suivi, hein, des médicaments ultra ciblés. Alors quel sera le plus grand fléau du 21e siècle, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé? Eh bien, c'est la résistance aux antibiotiques. Elle pourrait être encore plus meurtrière que le cancer. Il est là le point de départ de vos travaux de recherche, Xavier Duportet?
Oui, il est là. En effet, donc c'est avec mon associé David Bicard, qui est maintenant directeur de recherche à l'Institut Pasteur et aussi directeur scientifique d'Eligo. On s'est penché sur la question de l'antibiorésistance.
Donc l'idée que les antibiotiques ne marchent plus.
Exactement. La montée de la résistance aux antibiotiques, en fait, quand les bactéries aujourd'hui, on peut les tuer avec des petites molécules. Imaginons qu'une bactérie, elle a plein de rouages à l'intérieur d'elle-même pour fonctionner. Les antibiotiques aujourd'hui, c'est des petites molécules, des petits grains de sable, gros grains de sable qui viennent se mettre dans ces rouages et qui empêchent du coup les rouages de tourner et qui empêchent la bactérie de se répliquer, de vivre correctement. Et en fait, il suffit qu'une bactérie, elle, chaque fois qu'une bactérie se réplique, se divise, grandit, en fait, elle recopie son ADN, son code génétique, et elle fait des erreurs. Et donc, ces erreurs, chacune de ces petites erreurs dans son code génétique peut faire que ça va changer la forme du rouage. Et donc, si le rouage change de forme, la petite molécule, l'antibiotique, n'aura plus d'effet. Et c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. Et donc aujourd'hui, beaucoup de bactéries dans le monde ont des rouages qui sont résistants à la plupart des antibiotiques qu'on utilise. Aujourd'hui, à peu près 3 milliards, la moitié de la population qui est porteuse saine, qui a dans les bactéries, dans les 10 trilliards de bactéries qu'elle porte dans son corps, notamment dans son intestin, des bactéries qui sont résistantes à un ou plusieurs antibiotiques.
Alors vous, ce que vous voulez faire, c'est tuer les bactéries en découpant leur ADN.
Exactement. Nous, on s'est rendu compte, avec David, que lorsqu'on utilisait des ciseaux moléculaires, des petits ciseaux à ADN, qu'on appelle CRISPR-Cas, et on en parlera...
On va en reparler avec Antoine Lanuzel dans un instant.
On s'est rendu compte qu'en utilisant ces petits ciseaux et en découpant une région précise du code génétique de ces bactéries, de leur code informatique, on crée un bug. On crée un bug qui empêche à ces bactéries de fonctionner et donc ça les tue. Et donc aujourd'hui, on développe chez Eligo Bioscience des éligobiotiques. Éligobiotiques, ce ne sont pas des antibiotiques. Éligo veut dire choisir, sélectionner. Donc des antibiotiques extrêmement précis. Et donc on délivre dans les bactéries de notre corps ces petits ciseaux qu'on programme pour découper des séquences très précises qui sont contenues que dans les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques.
Voilà. S'attaquer aux mauvaises bactéries sans toucher aux bonnes.
Et donc on va découper le génome, le code génétique des mauvaises bactéries et tuer celles-là, tout en laissant le reste des bactéries qui sont bonnes pour notre santé, ce qu'on appelle le microbiome, complètement intact.
Alors quels sont vos premiers résultats? Vos antibiotiques ont-ils déjà, vos éligobiotiques ont-ils déjà prouvé leur efficacité?
Alors ils ont déjà prouvé leur efficacité, oui, dans ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de pétri. Chez des animaux aussi, on fait des tests en ce moment chez des petits animaux, chez des souris, sur des bactéries résistantes, des staphylocoques dorés, des Escherichia coli, pas mal de bactéries qui peuvent causer des infections assez lourdes, assez dangereuses pour la santé. Et très bientôt, donc là, on a levé plusieurs millions il y a un an et demi, et là, on s'apprête à relever beaucoup plus d'argent pour passer des petits animaux, des tests chez les petits animaux, à des tests chez les hommes. Et donc ça, ce sera, on espère, d'ici un an et demi à deux ans.
Alors, il va falloir évidemment passer les étapes de tests cliniques.
Oui.
Vous espérez lancer ce produit sur le marché à quelle échéance, Xavier Duporter ?
Alors, notre premier produit, parce qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on a vraiment un outil qui nous permet de faire plein de nouveaux oligobiotiques pour pas mal de maladies différentes. Et donc, notre premier produit, on espère le lancer sur le marché. Si tout va bien, c'est très compliqué d'arriver à estimer ça, parce que les études cliniques sont très longues et très compliqué, mais d'ici 2022, on espère 2022-2023,
parce que c'est en fait, proche finalement.
C'est assez proche parce que notre première indication, c'est ce qu'on appelle, on cible une indication qui est une maladie orpheline, une maladie qui touche une maladie qui touche assez peu de personnes, et du coup où il n'y a pas de solution, pas de traitement actuel, et donc les procédures pour mettre un médicament sur le marché, un médicament qui vise une maladie orpheline sans traitement existant, c'est les procédures qui peuvent être accélérées et d'avoir une mise sur le marché plus rapide.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on parle d'antibiotiques du futur, mais finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec un antibiotique d'aujourd'hui.
Exactement. Donc, c'est un oligobiotique.
Quelle forme auront les oligobiotiques ? Ce sera des cachets, des piqûres ?
Les premiers, on l'espère, ce seront des cachets, oui. Ce seront à prendre par voie orale. Et donc, ce sera très simple à prendre.
C'est le sniper de la bactérie, finalement.
Le sniper du microbiome, c'est ça.
Il s'attaque uniquement à son ennemi et pas de dommages collatéraux.
Et pas d'effets secondaires.
On va continuer à parler de ces petits ciseaux à ADN que vous évoquiez à l'instant. Voici la chronique de Oui Demain. Avec le rédacteur en chef de cette revue qui fête d'ailleurs ses 5 ans cette semaine. Bonjour Antoine Lanuzel.
Bonjour Dorothée,
en effet. C'est pas vous qui fêtez
vos 5 ans. Nouveau numéro vient de sortir.
Oui, non, c'est le nouveau numéro, le numéro anniversaire. Alors CRISPR-Cas9, c'est l'outil qu'utilise Xavier Duporter pour neutraliser les bactéries sur lesquelles les antibiotiques ne font plus effet. Mais cet outil offre bien d'autres possibilités. Et dans le nouveau numéro de Oui Demain, on peut lire un article sur les pouvoirs révolutionnaires de CRISPR-Cas9.
Et oui, cet outil au nom assez imprononçable, hein, disons-le. CRISPR-Cas9, il a été révélé au monde en 2012, mais déjà on le décrit comme la révolution génétique de ces prochaines années. Alors on doit CRISPR-Cas9, je veux dire CRISPR à partir de maintenant.
Petit surnom.
Oui, on va simplifier. À deux scientifiques, deux femmes, et l'une d'entre elles est française. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier, elle travaille dans un labo allemand et elle est déjà pressentie pour le prix Nobel. Alors son mérite, c'est d'avoir associé une hélice d'ADN, donc CRISPR, à une protéine, Cas9, pour former une sorte de paire de ciseaux miniatures qui est capable 1. De cibler une cellule, 2. De s'y introduire, 3. De modifier un microfragment de l'ADN de cette cellule, autrement dit, modifier les gènes d'un être vivant. Vous me suivez ?
Oui, bien sûr, on vous suit. Justement, l'un de vos journalistes, hein, Sylvain Lapoix, a lui-même testé la chose. Ça donne lieu à un roman photo dans Oui Demain.
Oui, on a d'abord imaginé tester ça sur une plante verte. Bon, c'était un petit peu trop compliqué. Alors, on a décidé de le faire sur des bactéries encore. Le défi, c'était de leur inoculer un gène qui leur offrirait un nouveau pouvoir, le pouvoir de résister à un antibiotique qui, en principe, les tue. Donc, un petit peu l'inverse de ce que fait Xavier. Oui. Donc, on a lancé la manip en suivant des tutoriels téléchargés sur le net et 3 jours plus tard, après avoir exposé nos bactéries trafiquées à l'antibio censé les éliminer, victoire, elles avaient survécu. Alors le plus fou dans cette histoire, c'est que ça nous a coûté moins de $150, de quoi commander sur un site américain les bactéries et le fameux kit d'édition génétique. Le tout s'est passé dans un espace collaboratif qui s'appelle La Paillasse à Paris, avec du matériel vraiment basique, un micro-ondes, un congélo, un bain-marie et quelques éprouvettes.
Donc finalement, CRISPR, c'est la manipulation génétique version low cost.
Oui, c'est même devenu la lubie de toute une tribu de biologistes américains, des profs, des étudiants. Alors, ils se fournissent sur le net, où ils échangent aussi un tas de conseils. Un biohacker américain, par exemple, nous a raconté comment il avait rendu des bactéries luminescentes en leur introduisant, devinez quoi, un gène de méduse. Bref, avec CRISPR, on peut bidouiller des insectes, des poissons, mais aussi des plantes. Voilà ce qui explique pourquoi Monsanto, le géant américain des semences agricoles, a récemment acheté une licence d'exploitation de cet outil.
Alors, sur l'homme, quelles sont les possibilités, Antoine ?
Alors, on n'a pas attendu CRISPR pour modifier génétiquement les cellules humaines, bien sûr. Ça se fait de façon très encadrée, du moins en France. Mais la limite de ces thérapies géniques, c'est qu'elles demandent énormément de moyens scientifiques et financiers. Alors, ce qui pourrait changer avec CRISPR, c'est que potentiellement, il faudrait beaucoup moins de temps et d'argent pour combattre les maladies liées à des désordres génétiques, voire pour éviter qu'elles n'apparaissent, et oui, en désactivant les gènes concernés. Tout ça, bien sûr, reste au conditionnel. À ce stade, on ignore encore l'efficacité réelle de CRISPR sur l'homme et surtout ses possibles effets secondaires. connaître et savoir modifier l'ADN, ça ne signifie pas percer les mystères du vivant, loin de là. Il n'empêche, les tests ont débuté. Le premier cobaye de CRISPR est chinois et on tente actuellement de le guérir d'un cancer du poumon. Et plus proche de nous, le Royaume-Uni vient d'autoriser l'usage expérimental de CRISPR sur des embryons humains, mais seulement pendant les 7 premiers jours de leur développement et avant destruction impérative des embryons.
Vous parlez d'embryons humains, on imagine les dérives possibles, les risques d'eugénisme, c'est une pente très glissante.
Et oui, une pente vertigineuse même. Dans le nouveau numéro de Oui Demain aussi, on a profité d'un entretien avec Martin Hirsch, vous savez, le directeur de l'APHP à les hôpitaux de Paris, pour l'interpeller là-dessus. Alors pour lui, ces avancées génétiques sont une vraie chance, une chance de mieux soigner l'homme, mais elles ne devront jamais être utilisées pour choisir les caractéristiques d'un être humain, la couleur des yeux par exemple, ou des cheveux, ni, et encore moins, pour réaliser des modifications héréditaires, sans quoi on créerait une nouvelle espèce d'humain OGM. Bref, le débat est grand ouvert, et vu son importance pour notre avenir, il n'est peut-être pas inutile de s'entraîner à prononcer le mot CRISPR-Cas9.
CRISPR-Cas9. Merci beaucoup Antoine Lanuzel. Merci. Reportage à retrouver donc dans le nouveau numéro de la revue Oui Demain. Une réaction, Marie-Vonne Jans, patronne de France Biotech. Quand on entend parler de modifier le patrimoine génétique d'un être vivant, évidemment, on s'inquiète.
Oui, bien sûr, il faut que ce domaine soit contrôlé. Mais par
ça
ailleurs...
suffit de dire, il faut que... Qui va contrôler ça et... Est-ce qu'on a seulement les moyens de le faire?
Il y a déjà pléthore d'organismes de contrôle, surtout en France d'ailleurs. On est plombé sous le principe de précaution en France et, entre parenthèses, qui bloque beaucoup nos essais cliniques.
Attendez, il vous paraît de trop le principe de précaution sur un sujet pareil?
Non, je veux dire que effectivement, c'est important de contrôler les cellules souches, la manipulation génétique. Mais par ailleurs, c'est effectivement un énorme espoir pour soigner un certain nombre de maladies génétiques, et la thérapie génique ou la thérapie cellulaire sont vraiment des domaines qu'il faut développer. Là, je suis une petite société qui travaille dans le domaine de la thérapie cellulaire, capable de régénérer le foie. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, il faut continuer à travailler dans ce domaine. Évidemment, il faut contrôler éthiquement les manipulations génétiques et garder ce principe de précaution pour cela, mais pas avoir un principe de précaution excessif pour soigner les patients.
Principe de précaution excessif, Xavier Duportet ?
Je vais pas commander sur le principe de précaution, mais je voulais juste rajouter que les modifications génétiques du vivant, ça existe depuis 1977-79 avec la première société qui s'appelle Genentech, une vraie révolution aux US. C'est de là où toute l'industrie de la biotechnologie est partie. Aujourd'hui, on utilise énormément de composés dans la nourriture, les parfums, les arômes. Les médicaments sont créés avec des organismes génétiquement modifiés. C'est très important de le comprendre. Et la deuxième chose, c'est que cette technologie CRISPR-Cas, il faut qu'elle soit contrôlée, elle est contrôlée. Il y a des organismes, il y a des moratoires qui ont été mis en place par les plus grands chercheurs qui travaillent dessus, les experts à la pointe de CRISPR, ils réfléchissent vraiment tous ensemble dans le monde entier. On a encore beaucoup de choses à comprendre sur cette technologie. Et du coup, ce qui est le plus dangereux, c'est d'empêcher les gens de travailler dessus, parce que dans ce cas-là, il va y avoir d'autres personnes dans des états qui sont un peu moins bien intentionnés, qui vont faire des choses, mais sans forcément vraiment comprendre. Aujourd'hui, il y a un article qui est paru il y a quelques jours qui a démontré que, contrairement à ce qu'on pensait, CRISPR-Cas introduit des dizaines et des centaines de mutations, justement, dans des endroits dans les cellules, là où on ne veut pas qu'ils introduisent de mutations. Alors qu'on était parti sur récemment, d'autres résultats montraient que c'était complètement safe d'utiliser ça pour de la thérapie, modifier les cellules. On se rencontre, grâce à d'autres expériences qui ont été permises parce que les gens ont eu le droit de travailler avec cette technologie, qu'au final c'est plus si safe que ça ne
paraît. Donc il y aurait des effets secondaires de CRISPR-Cas9.
Voilà, mais du coup il faut travailler pour améliorer cette technologie, pour la comprendre et en même temps prendre le temps d'y réfléchir.
Ce qui est frappant dans ce que nous raconte Antoine Lanuzel, c'est le côté low cost, c'est accessible à tout un chacun aujourd'hui cette manipulation génétique.
C'est accessible à tout un chacun, surtout sur les bactéries, sur des êtres extrêmement simples. Sur les êtres humains, les modifications, l'eugénisme, alors ça fait beaucoup parler, mais on est en train de se rendre compte que pour enlever certaines maladies, par exemple des maladies très complexes, on se rend compte que c'est pas un seul gène qu'il faut changer, mais c'est 100-150 gènes. Et si on modifie, on effectue les corrections sur ne serait-ce que la moitié des gènes, au lieu de supprimer de 50% les mauvais effets de la maladie, au final on n'en supprime que 0,01%. Et donc avant d'arriver à faire un eugénisme, à l'eugénisme, on peut y arriver. Mais tout le temps qu'on va passer à y arriver, c'est ce temps-là qu'il faut prendre pour discuter et réfléchir à comment vraiment utiliser cette technologie.
Allez, on continue à se plonger dans l'ordonnance du futur. Une question, vous n'avez rien contre les larves d'insectes, l'un et l'autre ?
Je suis passionné d'insectes.
Non, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Eh bien, figurez-vous que dans un instant, on va entendre un reportage sur la larvothérapie, une technique médicale qui consiste à soigner les plaies grâce à des larves de mouches. Mm-hmm. Personnellement, ça me fait bondir, mais l'avantage à la radio, c'est qu'on n'a pas l'image. Et la larvothérapie, figurez-vous, c'est de la médecine de pointe, aussi surprenant que ça puisse paraître, peut-être même un traitement d'avenir. On écoute d'abord Marie-Flore sur France Inter, Passade Digitale.
C'était qu'une passade digitale et j'en retiens que dalle main. Rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais promis, on se fait pas de mal, promis.
Écoutez Demain la veille sur France Inter. En voilà une bonne idée. Dimitri Gronoff est à la technique. L'émission a été préparée par Karen Deyer, réalisée par Marie-Hélène Fauquet.
Visite guidée de l'avenir avec Dorothée Barba sur France Inter.
Non, rien de grave, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Rien de grave, hein. Vous nous faites juste une petite biélonéphrite, hein. Pardon. Non, écoutez, c'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes, hein.
Ah, le médecin du futur sera-t-il un peu plus clair avec ses patients? C'est difficile à dire. Concentrons-nous plutôt sur l'avenir du médicament avec deux invités cette semaine, Xavier Duportet et Marie-Vonne Jans. Une médecine et des médicaments, on l'a bien compris, qui seront plus ciblés, plus personnalisés. Voilà vers quoi on s'oriente. Et l'immunothérapie est une illustration de ce phénomène, Marie-Vonne Jans. Le principe, c'est de s'appuyer sur les défenses naturelles pour détruire les cellules malades et donc de puiser dans le corps de quoi se soigner. Sur quoi travaillez-vous précisément en ce moment?
Aujourd'hui, OSE Immunotherapeutics développe des biomédicaments pour réguler et activer le système immunitaire, à la fois dans les maladies auto-immunes, la transplantation et le cancer. Donc, pour les applications dans les maladies auto-immunes, on touche plutôt la régulation du système immunitaire et pour le cancer, l'activation du système immunitaire. Pour simplifier, au niveau des cellules cancéreuses, donc en général, on les soignait jusqu'à maintenant en chimiothérapie, donc l'objectif était de tuer les cellules cancéreuses. Mais on s'est aperçu que le système immunitaire, qui est un système de contrôle et de surveillance, eh bien, venait bloquer et protéger les cellules que nous étions en train de tuer. C'est-à-dire que l'environnement des cellules tumorales a un rôle très important.
Donc le corps humain se battait contre son propre traitement.
Exactement. Donc l'objectif est de trouver des médicaments qui vont agir sur l'environnement des cellules tumorales. Et là, donc, OSE Immunotherapeutics a plusieurs produits. Un produit en phase 3, c'est-à-dire en dernière phase clinique avant d'être mis sur le marché pour le cancer du poumon. Et deux produits qui sont un en phase 1 et qui a fini sa phase 1 et qui va rentrer en phase 2 et qui a été cédé à un groupe industriel qui est Johnson & Johnson pour des applications dans la polyarthrite rhumatoïde et un second dans les maladies auto-immunes qui est appliqué au rectocolite hémorragique qui a été aussi cédé à Servier. Pourquoi nous avons cédé à des groupes pharmaceutiques ces deux médicaments dans les applications auto-immunes ? C'est tout simplement que les essais sont extrêmement longs et coûteux et qu'une société de biotech a beaucoup de difficultés
à financer
ces essais cliniques. Donc, et nous avons un quatrième produit dans le domaine de l'oncologie qui est en phase préclinique.
Voilà. C'est une question que je pose souvent aux chercheurs dans cette émission. Est-ce que vous aimeriez être encore là dans 150 ans pour voir les applications concrètes de tous ces travaux, Marie-Von Jans?
Ah bah oui, absolument, parce que c'est passionnant quand on voit l'évolution effectivement de l'immunothérapie et les avancées extraordinaires depuis 2010. On a vraiment envie de connaître la suite et de faire effectivement en sorte que les médicaments de demain soignent réellement les patients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une partie qui est soignée. Ces médicaments sont très ciblés et sont très efficaces seulement sur certains patients et pas sur 100% des patients. Donc, de voir 100% des patients avec leur système immunitaire restauré, sans effet secondaire, comme vous le disiez tout à l'heure, ce serait formidable.
Oui. C'est étonnant de vous entendre dire des médicaments qui soigneront vraiment les patients. Ce n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, on passe plutôt de maladies aiguës à maladies chroniques, ce qui est un progrès considérable. C'est-à-dire que vous pouvez vivre longtemps avec une maladie chronique, donc plus difficilement avec une maladie aiguë. Donc ça, maintenant, on y arrive. Mais on n'arrive pas dans le cancer et dans les maladies auto-immunes à soigner complètement les patients, c'est-à-dire à restaurer complètement le système immunitaire.
Alors, puisque Xavier Duportet nous a dit tout à l'heure qu'il était passionné par les insectes, place au reportage à présent. Je vous emmène, comme promis, dans un hôpital où l'on soigne avec des larves de mouches. L'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonne est l'un des rares en France à pratiquer la larvothérapie. Lénora Krief s'est rendue dans le service d'endocrino-diabétologie pour en savoir plus sur ce traitement capable de soigner les plaies de certains patients diabétiques avec des larves qui aident à cicatriser. Notre reporter a rencontré un patient diabétique de 82 ans qui a dû être amputé des pieds et son médecin, le docteur Dardari.
J'ai arrangé la petite orthèse, donc j'ai fait un petit trou là où il y a la blessure. Et si vraiment Ça vous enquiquine, vous enlevez la première des anses, vous savez, en dessous.
Oui. On a affaire avec un patient qui a été traité par une larvothérapie. C'est un patient qui est diabétique et un ancien tabagique. Les artères, ils sont bien abîmés, en fait. On a une artériopathie à la fois à cause de diabète et de tabac. Et on n'avait pas d'autre solution que de faire des amputations pour sauver le pied. Malheureusement, quand on ampute et qu'on a un état artériel qui est précaire, le corps développe ce qu'on appelle la fibrine. C'est une protéine qui empêche la cicatrisation. Et donc avec la larvothérapie, on arrive à faire une détertion de cette fibrine. Et vous voyez les résultats ici, qu'on a une plaie qui a cicatrisé et qu'on a sauvé tout simplement la jambe de patient grâce à cette larvothérapie.
Une détertion, ça veut dire que les larves ont un pouvoir détergent?
Exactement. Ils sont très intelligents, ces larves. Ils sont à la fois actifs sur tout ce qui plaît pas propre, c'est-à-dire ils vont produire des enzymes qui vont aller tout simplement rendre cette fibrine plus molle et la transformer en liquide. Ils vont aller absorber ce liquide et l'utiliser comme une nourriture. Normalement, on ne sait pas quoi faire avec elle. C'est comme un genre d'une substance plâtrée. C'est comme un plâtre qui se colle sur la plaie et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'il faut absolument le retirer. Et malheureusement, on ne sait pas le retirer autre que par la voie chirurgicale. Alors qu'avec les larves, ils vont tout simplement transformer cette fibrine en liquide et le liquide sera tout simplement phagocyté, absorbé par les larves.
Vous n'étiez pas réticent à l'idée d'un traitement avec des larves ?
Non. Avec le docteur Dardari... Quand il m'a pris, il m'a dit, je te promets que tu vas remarcher. Comme c'est un petit marrant, alors je l'ai connu.
Et alors, quelle sensation ça fait?
Bah écoutez, ça fait pas mal. Je peux pas dire que ça bouge. Mais dans ma tête, je sentais bouger. Je dis, c'est pas possible. Ces petits vers là qui sont là, ils sont pas là, inertes à pas bouger, hein. Donc ils font un travail. J'allais pas les déranger dans leur repas. J'ai la chance, tous les matins, toutes les infirmières, elles étaient autour de mon lit. Avec les appareils photo pour voir l'effet que ça fait, comment ça se développe.
Ça dure combien de temps, ce traitement?
Oh, un mois, un bon mois. Hein.
C'est des cycles de 3 jours, en fait. Parce que la durée de vie des larves au stade qu'on l'utilise, c'est de 3 jours, en fait. Et puis après, on donne une semaine de repos à la peau et aux patients. On le reconvoque, on remet à notre série de larves une semaine après.
C'est hygiénique d'utiliser des larves? Il n'y a pas de problème d'hygiène?
Alors, le processus est complètement stérile, de A à Z, de la sélection des œufs jusqu'à la mise en sachet, jusqu'à le transfert et l'utilisation par l'infirmière. Tout se passe dans un circuit propre et stérile de A à Z.
Est-ce qu'on peut juste les voir, ces larves?
Oui, suivez-moi. Vous voyez,
Là, vous avez un petit flacon dans lequel se trouvent effectivement des larves vivantes. Voilà, il y en a quelques-unes. Hein.
Exactement. Nous, on le reçoit à cette taille-là, donc une taille qui n'excède pas 2-3 mm. Et puis, on va les appliquer au travers des sachets stériles. Et donc, ils vont sortir leurs petits dents, micro-dents, au travers des micropores dans le sachet. Ils vont aller chercher la fibrine pour la manger. Et ils vont tout simplement doubler, voire tripler de volume au bout du cycle thérapeutique, parce qu'ils vont manger non-stop de la fibrine.
Elles sont toujours utilisées en sachet.
Exactement, parce qu'en fait, si on ne les met pas dans les sachets, ils vont se balader dans le pansement, ils vont sortir par le pansement. Donc, c'est pour ça il faut des sachets qui puissent les retenir, mais en même temps les permettre à manger et nourrir et chercher la fibrine.
Et avec une plaie classique, est-ce que les asticots pourraient aussi être efficaces?
Oui, mais en fait, si on arrive à la guérir avec un pansement simple, la plaie, ça peut indiquer de dépenser de l'argent et de mettre des larves. Donc, c'est une prescription quand même qui reste très spécifique pour des milieux hospitaliers, avec des équipes qui savent l'utiliser, et puis surtout des plaies bien identifiées, parce que quand même, il y a un coût et on ne peut pas mettre les larves partout.
Voilà, c'est un traitement qui reste coûteux. Reportage de Lénora Krief à l'hôpital sud-francilien de Corbeil-Essonne. Les larves de mouches qui sont placées dans les pansements sont importées d'Allemagne, car il n'existe aucun laboratoire qui en produise en France. Et c'est une pratique encore très rare dans l'Hexagone, mais peut-être une pratique du futur. Finalement, il n'y a pas de robotique, pas d'impression 3D, pas de nanotechnologie, pas de manipulation génétique, mais c'est de la médecine de pointe, Xavier Duportet.
Oui, c'est la médecine de pointe. Je trouve que c'est une belle évolution de la médecine, puisque quand on ne comprenait rien du tout aux maladies, on utilisait de la chimie, on testait des milliers, des millions de petites molécules, voir si elles marchaient. Il y avait beaucoup d'effets secondaires, parce que justement, on n'y comprenait rien et on regardait juste si ça résolvait le problème, mais on ne regardait pas trop à côté. Et aujourd'hui, avec l'avancée de la compréhension, là, on va de plus en plus vers une médecine qui est basée sur de la biologie. Mmh. Et là, on a compris que la cicatrisation était empêchée par la fibrine, ce qu'on ne savait peut-être pas avant. Et du coup, maintenant, on a cherché vraiment quelle était la façon la plus précise et la plus efficace pour enlever cette fibrine.
J'ai du mal à cacher que ça me hérisse un peu. Vous seriez prêt à le faire, vous, mettre des larves sur une plaie? Sur vous?
Sur moi, en effet, si c'est pour éviter de perdre une jambe,
ouais,
évidemment.
Marie Vanuance.
Oui, tout à fait. Je pense que à côté de cette médecine très ciblée, très sophistiquée, d'autres produits se développent et sont très naturels. Par exemple, je connais en Bretagne une société qui développe des nouveaux produits à partir d'extraits d'algues vertes. Et nous avons fait des essais avec une équipe de recherche INSERM qui montre que ces extraits d'algues protègent la paroi intestinale, protège les bactéries, le microbiote, et pourrait, ça c'est encore très 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 préliminaire, éviter les maladies dépressives. Donc c'est formidable d'avoir ces espoirs aussi avec des produits naturels.
Voilà, les biomédicaments pourraient un jour remplacer complètement les médicaments de synthèse finalement.
Voilà, exactement.
Vous n'avez aucun mot de tête? Si. Ah, je vais quand même vous prescrire du nolfenaxoline, hein. Au cas où nous aurions affaire à un syndrome ovulien, du phytoplasme aurifère, des mamelles ostéiques, du cortex labial. Mais j'en suis pas convaincu, hein. Ouvrez la bouche. Non, rien de grave, hein.
Extrait d'un sketch des Inconnus. Allez, je vous prescris un peu de sucre brun. Non, en fait, non, parce qu'il semblerait que ça soit l'héroïne. Voici les Rolling Stones sur France Inter, Brown Sugar. Et dans un instant, je tends mon micro à Christophe Galfard, physicien, écrivain, grand vulgarisateur. Et c'est à lui d'imaginer ce qui aura changé quand on sera grand. Vous écoutez France Inter, bel après-midi à tous. Mais quel plaisir! Les Rolling Stones sur France Inter, extrait de l'album Sticky Fingers en 1971. Une question, chers auditeurs, savez-vous ce que signifie l'équation E égale MC2? Si vous avez oublié ou si vous n'avez jamais compris, le nouveau livre de Christophe Galfard est fait pour vous.
Demain la veille, avec Dorothée Barba, raconte-moi le futur.
Bonjour Christophe Galfard.
Bonjour Dorothée Barba.
Savez-vous à quoi ressemblera le monde quand on sera grand?
Je pense que de toute façon, pour le bien-être de notre espèce, il va falloir qu'on colonise l'espace. C'est pas une lubie, c'est un fait. L'avenir de l'humanité se déroule et sur Terre et dans l'espace ou ne se déroulera pas. Voilà, les dinosaures, eux, ils sont pris des météorites et des éruptions volcaniques. S'ils avaient été dans l'espace, ils seraient peut-être encore là. Mars, c'est pas mal pour une première tentative d'apprendre comment on vit ailleurs, etc. Mais le but, ce serait vraiment les planètes beaucoup plus lointaines. Et c'est là qu'interviennent les découvertes scientifiques théoriques du siècle dernier et les avancées technologiques d'aujourd'hui. On sait par exemple que les distances sont colossales pour aller à une autre planète. Avec ce qu'Einstein nous a appris au début du siècle dernier, plus on va vite, moins le temps s'écoule vite. C'est-à-dire que ces distances colossales qui prendraient, vue de la Terre, des dizaines de milliers d'années à traverser avec les technologies actuelles, avec des technologies futuristes, disons, qui nous permettraient d'aller extrêmement vite, le temps ressenti par les colons, disons, par les voyageurs, serait beaucoup plus court que le temps que nous, on verrait depuis la Terre. C'est-à-dire que la montre au poignet d'un astronaute tic moins vite que notre montre à nous sur Terre. Et c'est pas juste la montre, hein, c'est même les cellules du corps, le vieillissement, etc., le calendrier, si vous voulez, le temps s'écoule moins vite. C'est ce qu'on appelle la relativité, en fait. Et grâce à ça, on pourrait éventuellement traverser des distances gigantesques en moins d'une vie.
Alors moi, je voudrais aller vivre sur Uranus, Christophe Galfard. C'est pour quand, ça?
Non, ça, je ne vous conseille pas. Uranus fait partie des planètes géantes, gazeuses, qui sont aux confins du système solaire. C'est une atmosphère colossale, c'est du gaz. Vous pouvez tomber pendant des heures et des heures, vous n'atteindrez pas le sol. Il y a d'autres planètes avant, comme Mars, ça c'est clair. Il y a éventuellement des lunes de Jupiter, où on peut trouver de l'eau liquide. Nous, on aime bien l'eau liquide, on a besoin de l'eau liquide. De vin aussi, mais on va commencer par l'eau liquide. Moi, je pense qu'il vaut mieux regarder plus loin et tenter de trouver une deuxième Terre ou quelque chose comme ça, et d'utiliser le savoir qu'on a aujourd'hui. Et par exemple, le E égale MC2, cette fameuse petite formule qui nous dit qu'on peut récolter de l'énergie à partir de la matière. Bon, si on arrivait à maîtriser ça comme il faut, disons, la quantité d'énergie qui nous deviendra accessible immédiatement est colossale. Je ne parle pas des centrales qu'on a aujourd'hui où on casse des atomes. Je parle de récolter l'énergie emmagasinée dans l'ensemble d'un objet massif. E égale MC2, par exemple, E c'est énergie, M c'est masse, et C c'est le taux de chance pour passer de la masse à l'énergie. Et c'est la vitesse de la lumière, qui est un chiffre énorme que vous mettez au carré. Pourquoi ne pas rêver à un moteur de fusée qui utiliserait cette énergie-là dans le futur? Et là, je pense que les portes du cosmos s'ouvriraient grand à nous.
Le physicien Christophe Galfard, son nouveau livre E égale MC2, l'équation de tous les possibles, est à mettre entre toutes les mains, et c'est aux éditions Flammarion. On parle de médicaments du futur cette semaine dans Demain la veille avec Xavier Duportet, le fondateur d'Eligo Bioscience, et avec Marie Von Jans, présidente de l'association France Biotech, porte-drapeau des entreprises françaises de biotechnologie. Quels médicaments prendra-t-on sur Mars, Marie Von Jans?
Alors là, franchement, je n'ai aucune idée des médicaments que l'on pourrait prendre sur Mars, parce que je ne sais pas comment se comportera notre système immunitaire.
Ah, voilà, on en revient toujours à l'immunothérapie.
L'immunothérapie, c'est un peu
votre lubie.
Mon lubie. Mais effectivement, là, je ne sais pas.
Le meilleur médicament, finalement, ce n'est pas de médicament du tout. La médecine de demain sera-t-elle prédictive afin d'éviter d'avoir à prendre un traitement, tout simplement?
Tout à fait. D'ailleurs, on travaille de plus en plus sur des outils de prédiction, hein, aujourd'hui, d'identifier les pathologies qui permettent de prédire le comportement de l'organisme, hein, pour éviter de prendre des médicaments. Mais bon, effectivement, je ne vois pas à court terme des outils de prédiction qui permettront d'éviter tout traitement, enfin, très, très honnêtement. pas à court terme, mais pas peut-être plusieurs siècles. Quand on voit que l'immunothérapie a démarré le concept à la fin du 19e et seulement maintenant on commence à voir les produits, je pense que une efficacité de la prédiction, je la vois pas pour demain. Ouais.
Xavier Duporté, vous placez de grands espoirs en la médecine prédictive qu'on annonce ?
Peut-être plus dans la médecine préventive. Prendre soin du corps avant qu'il soit malade. Du coup, ça peut être de la médecine préventive ou simplement une bonne hygiène de vie. Mais en tout cas, en effet, je pense qu'aujourd'hui, avec le séquençage et toutes ces choses-là, on peut arriver à plus ou moins, pas forcément prédire quelles vont être les maladies, mais prédire qu'il y a certaines dispositions. Et donc, avec de la médecine préventive, on peut essayer de limiter l'apparition des pathologies.
Marie Vonniens, vous me disiez pendant le disque, la médecine de demain, ce sera le patient au cœur de tout. C'est pas déjà le cas aujourd'hui ?
Oui. Ça commence maintenant, déjà.
Ce serait censé l'être, en tout
voilà,
cas.
Voilà, c'est parce qu'on voit très bien le patient aujourd'hui, lorsqu'on lui annonce une maladie, il va évidemment se précipiter sur son ordinateur et aller voir tout de suite comment on traite la maladie, qui va la soigner, quels seront les effets secondaires s'il prend tel et tel médicament. Et lorsqu'il va revoir son médecin, automatiquement, un autre dialogue va s'établir. Mais effectivement, beaucoup de centres cliniques ont compris qu'il était important de garder ce dialogue. Et justement, dans le domaine du cancer, là, il y a un grand congrès actuellement aux États-Unis, et il y a un professeur qui a montré ses résultats cliniques sur 800 patients qui avaient un cancer grave. À la sortie de l'hôpital, il leur a donné un smartphone en disant « Mais vous suivez en temps réel votre maladie, et si vous avez des questions par texto, vous avez un centre là qui va répondre à vos questions. » Et il s'est aperçu que ce dialogue permettait finalement de mieux participer au bien-être des patients et que la survie des patients était beaucoup plus longue et avait un effet bénéfique réel.
La médecine 2.0 a de beaux jours devant elle.
Voilà, c'est-à-dire que les objets connectés liés aux patients vont se développer pour le bien-être du patient. Ça, c'est clair.
J'aimerais quand même qu'on dise un dernier mot, Xavier Duporté, sur les antibiotiques. On a parlé tout à l'heure de votre antibiotique du futur.
Oui.
Est-ce qu'il faut encore faire confiance à ceux d'aujourd'hui ?
Il faut non seulement leur faire confiance.
Est-ce qu'on arrête tous de prendre nos antibiotiques dès maintenant ?
Non, évidemment que non. Il faut faire attention à ne pas en prendre tout le temps. Mais il ne faut pas oublier qu'un antibiotique, même si ça coûte pas cher, ça sauve la vie des gens, puisque ça, une infection peut tuer quelqu'un. Mais le plus important, c'est quand on les prend, il faut les prendre jusqu'au bout. Suivre la prescription et suivre la période de prescription pour éviter de rendre les bactéries résistantes aux antibiotiques.
Mais vous dites que c'est une arme de destruction massive, l'antibiotique.
L'antibiotique tue les bactéries. Aujourd'hui, quand on a une infection, quand c'est trop grave, il faut tuer absolument les bactéries. Donc,
en attendant d'avoir
nos oligobiotiques sur le marché, continuez d'acheter des antibiotiques.
Deux, trois mots rapides sur le défi Bonjour Demain, Xavier Duporté, qui s'appelle en réalité le Hello Tomorrow Challenge. De quoi s'agit-il ?
Hello Tomorrow, c'est une association non-profit à but non lucratif que j'ai montée en France et qui est maintenant présente dans plus de 45 pays dans le monde, qui a pour but d'identifier et d'aider les jeunes chercheurs qui deviennent entrepreneurs et du coup qui s'attaquent à changer le monde, à répondre aux grands problèmes de société grâce à la science et on les aide à transformer leurs produits, leurs inventions en produits. Et donc on a plus de quelques milliers de candidatures du monde entier, de jeunes chercheurs entrepreneurs dans tous les domaines. Ça va de l'aérospace, nouveaux matériaux, biotechnologie, transport, mobilité, intelligence artificielle. On sélectionne les meilleurs et on les fait venir à Paris. On en fait venir plus de 500 le 26 et 27 octobre prochain. Ça sera au 104.
On suivra ça de près.
Avec les plus grands entrepreneurs scientifiques qui sont déjà en train de changer le monde. Et donc c'est un bel événement, plein d'optimisme pour vraiment changer le monde et répondre aux grands problèmes.
Allez, l'heure tourne, il est temps d'ouvrir le bocal de demain la veille. C'est un bocal stérile, hein, évidemment, autant qu'un laboratoire de médecine de pointe. Chaque semaine, nous mettons sous cloche des trucs qui vont disparaître dans le futur. Et c'est donc à votre tour. Quelle relique du temps présent déposez-vous dans le bocal, Marie Vonniens ? Elle hésite encore. Il est temps de choisir.
Oui, je choisis quelque chose de très simple. C'est l'ordonnance, tout simplement. Je pense que ça n'existera plus.
Le papier en général,
papier
d'ailleurs.
Le papier en général, voilà. C'est-à-dire que ce sera en direct entre le pharmacien, le médecin, le patient.
C'est dommage quand même que l'ordonnance disparaisse parce qu'on est tous très attachés à cette écriture indéchiffrable du médecin sur l'ordonnance.
Oui, mais est-ce que
c'est la poésie du temps présent, ça.
Mais est-ce que le médecin lui-même écrit encore son ordonnance à la main?
Ah oui, je peux vous dire qu'il l'écrit et on ne comprend rien, d'ailleurs.
Ouais. D'accord.
Xavier Duporté, que déposez-vous dans le bocal?
Alors, vous avez mentionné les insectes tout à l'heure, donc je ne peux pas m'empêcher.
Ah. Et j'ai très peur.
Non. C'est la phasme des Seychelles. Le Graphaea seychellensis, ouais. Qui est, vous savez, les insectes bâtons, qui sont en voie de disparition. J'en élevais quand j'étais gamin. Et donc,
Vous éleviez des phasmes vous, dans votre jardin ?
Dans ma maison. Ouais. J'avais une maman très, très ouverte.
Très compréhensive.
Et la deuxième chose, si je peux en mettre une deuxième ?
Allez-y.
Rapidement. C'est les outils actuels, ce qu'on appelle le clonage, la modification, enfin, comment on manipule l'ADN à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on découpe, on colle de l'ADN. Je pense que dans 20 ans, c'est déjà en train d'arriver aujourd'hui, maintenant on va pouvoir imprimer de l'ADN comme on imprime des lettres sur du papier.
Donc finalement, vous déposez le ciseau à ADN dans le bocal.
Le ciseau, non, sera encore très utilisé, parce que le ciseau, l'ADN, en fait, on l'utilise, on a besoin de cet ADN qui soit exprimé dans les cellules, mais en tout cas pour produire cet ADN, au lieu de le prendre de choses qui existent déjà, on va le synthétiser. Il y a plein de boîtes qui travaillent dessus. Donc, une super boîte française avec l'innovateur de l'année par le MIT qui a été décerné hier soir. Une boîte qui s'appelle DNAscript qui construit une imprimante à ADN.
Bon, alors on dépose.
Les techniques d'aujourd'hui créer d'aujourd'hui. De l'ADN.
Alors on y met donc une ordonnance de médecin très bien écrite, un phasme des Seychelles et la manipulation d'ADN contemporaine qui bientôt sera du passé. Le tout est sous cloche. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle soirée.
Merci.
Sur France Inter. Xavier Duportet, je renvoie les auditeurs à un livre collectif intitulé « Demain, territoire de tous les possibles ». On y retrouve beaucoup de ceux qui veulent que la technologie aille dans le sens du bien commun. Et vous en faites partie. Ils signent chacun une tribune dans ce livre éclairant. « Demain, territoire de tous les possibles » aux éditions Larousse, sous la direction de Michel Levy-Provençal. La semaine prochaine, on va se demander si le futur sera sonnant et trébuchant. Les espèces vont-elles disparaître ? Quel avenir pour les monnaies locales ? Les monnaies complémentaires pour les bitcoins. Bref, il sera question du futur de l'argent. Rendez-vous dimanche prochain à 17h. À suivre, le sport avec Philippe Collin et son œil du tigre.